Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour les amis, pas plus qu'on échappe à son destin, on échappe au rugby, surtout à Sud Radio, la radio du rugby. C'est vrai qu'on attend tous ce quart de finale légendaire ce soir, le choc des titans, comme on l'a surnommé. Ah, attendez, Gilles, on ne vous entend pas, qu'est-ce que vous disiez? Parce que je ne vous ai même pas présenté
contre
encore.
Contre le champion du monde.
Contre le champion du monde en titre, absolument. Alors vous l'avez compris, je suis ce matin avec Gilles Pudlowski qui sort le petit pudelot des bistrots. Alors, vous allez me dire, quel rapport? Ah bah, tous les rapports. Nous espérons bien que jusqu'à la finale, les supporters venus de toute l'Ovalie, bah, c'est tout le territoire français des amateurs de rugby, vont venir nous rejoindre à Paris. Et quand on vient à Paris, en dehors du match et en dehors d'aller boire du coup avec les copains, bah, il faut bien se sustenter, hein, comme
voilà,
on dit Gilles.
La troisième mi-temps.
La troisième, ou l'avant-match. Hein,
l'avant-match, les deux, on fait l'apéro aussi.
Absolument.
Absolument.
Et alors, ce monde de l'Ovalie, je dirais un goût particulier pour le bistrot,
oui, hein,
c'est-à-dire la cuisine traditionnelle.
On a quelques bistrots où c'est carrément le royaume de l'Ovalie. Je pense notamment à la cantine Roquet de
Christian Etchebest,
bien sûr. Où on mange les charcuteries d'Éric Hospital. Donc,
oui, bah, c'est sûr que sud-ouest, dès qu'on est un peu sud-ouest,
on est complètement sud-ouest.
Alors, je vous rassure, j'ai eu avant le début de la Coupe du Monde le fameux 15 de la gastronomie avec Christian Etchebest, Yves Candebord qui était là, Alain Dutournier. Voilà. Bon, ce sont des promoteurs du bistrot du Sud-Ouest,
du bon bistrot, des bonnes choses simples et bonnes, voilà.
Alors, Gilles Pudlowski, pour tous les autres qui viennent à Paris et aussi les supporters venus de l'étranger, enfin de toutes ces nations du rugby, la recherche du bistrot parisien est un vrai souci. Si on n'a pas le prescripteur que vous êtes pour trouver les bonnes adresses. Et les bonnes adresses, c'est pas forcément celles qui sont les plus tape à l'œil, au contraire.
Voilà, c'est pas les plus chères, c'est pas les plus remarquées, c'est parfois les moins connues. Et puis en plus à Paris, vous savez, les qu'elles sont fermées le samedi ou le dimanche.
Absolument.
Ou sont ouvertes tous les jours. C'est le cas d'ailleurs de la cantine Roquet, c'est le cas du récepteur dans le 16e, qui est juste à côté de la maison de la radio. Et c'est pas très très loin de enfin, c'est pas le parc des Princes, j'allais dire. Mais
c'est important en tout cas d'avoir un repère,
puis,
un petit répertoire.
Là, vous avez 107 endroits où le zinc compte beaucoup. Là, on dit que Antoine Blondin disait que le zinc, était le seul métal conducteur d'amitié. Eh bien, c'est
bien.
Vraiment l'endroit idéal pour casser la croûte avec des copains ou se faire des copains cassant la croûte.
Vous êtes fait plein de copains et vous avez 7 lauréats dans votre guide donc 2023 des bistrots. Et on a en ligne avec nous celui qui a reçu le trophée de l'hospitalité. Alors, c'est très important parce que dans l'assiette est très important, mais comme vous disiez, la commensalité, c'est ce qui est mis en avant dans les bistrots.
Oui, c'était quelqu'un qui est né avec le sourire, qui possédait autrefois plusieurs bistrots dans Paris, qui a fini par les vendre et il demeure l'aubergiste d'un certain endroit.
Ah bah voilà.
Et c'est un monsieur de cœur, voilà, Jean-Gabriel Debueil.
Bonjour Jean-Gabriel Debueil qui écoute
ce... Chez Georges Rue du Mail.
Chez Georges Rue du Mail. Parce que Georges, c'est un nom qu'on retrouve souvent dans les bistrots.
Il y a aussi le bon Georges. Il y a le bon Georges, il y a chez Georges, aussi il y a le petit Georges dans le 8e.
Ouais, souvent des prénoms parce que c'était des lieux qui étaient rattachés à des personnes.
Chez Marcel, chez André.
Enfin,
chez Lorette. Il y a un chanteur.
Jean-Gabriel Debueil, tous ces éloges à votre endroit prononcés par Gilles Pudlowski, ils sont très mérités, me disait-il hors antenne.
Bah, c'est quand même formidable.
Oui, bah, écoutez, merci. Bonjour Vincent, bonjour Gilles.
Bonjour Jean-Gabriel.
Voilà, une belle matinée ensoleillée. Oui, ben non, mais ça fait plaisir. C'est vrai que le restaurant, le bistrot, c'est multifactoriel. C'est pas simplement une assiette. Hein.
Mm-hmm.
C'est vrai que c'est un casting, un sourire, une lumière, évidemment une équipe dédiée, une histoire, une atmosphère, un lieu où il se passe toujours quelque chose. Et Et voilà, donc c'est vrai que l'hospitalité, c'est bien, parce que c'est une façon aussi de mettre un coup de projo sur quelque chose d'essentiel dans des lieux de vie où on essaye de faire le maximum. C'est l'art de recevoir. Quoi.
Alors,
donc, et puis, la gentillesse. Voilà.
Jean-Gabriel, Gilles Pudlowski, brossait un peu votre portrait, ou plutôt votre histoire. Vous êtes passé par différents lieux de restauration avant d'être bistrotier un petit peu hors pair.
Oui, c'est-à-dire, entré en résistance. Je fais ce métier pour entrer en résistance. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, à chaque fois qu'il y avait un vieux bistrot.
Tu en gérais combien, là ?
J'en avais 5.
Moi, je l'ai connu à l'époque. Il y avait chez Fred Bourg-Pérère.
Bien sûr.
Qui est d'ailleurs dans le guide. Le bistrot de Paris aussi.
Il y avait Fred,
chez René.
Tout à fait. Il y avait sa vie aussi, rue Bayard.
Vous savez bien, avec mon père, Jean Ferniaud, ça a été mes fonds de culotte que j'ai usé chez sa vie.
Faire les croûtes. Rendons hommage à ton père, il aurait été ravi d'être là avec nous.
Et donc, ça veut dire qu'au bout de ce parcours, il y a chez Georges, rue du Mail, vous y avez mis un petit peu tout ce que vous avez glané de votre expérience au cours des différentes expériences précédentes.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Il y a toujours un moment, une temporalité, un parcours de vie. Il y a
bien
eu
sûr,
un moment où... En fait, ce qui se passe, c'est que... Et il faut le dire, en rachetant des bistrots, tout ça, on n'a pas le don d'ubiquité. Et puis, c'est une réalité. Il y a un moment, on peut pas être partout. Et donc, forcément, on fait un peu moins bien les choses. On s'égare. Et on se disperse un petit peu, et puis voilà. Puis il y a eu un principe de réalité, et puis notamment le Covid. Mm-hmm. J'ai voulu revenir à des fondamentaux.
Ouais.
Et Georges est une maison qui est alors j'habite le quartier là-bas, à côté. Et donc voilà, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Après, je les ai toutes ces affaires aimées. De la même façon, souvent on me disait « Mais quel est ton préféré ?» Et je disais « Mais bon, c'est comme si vous demandiez à un de vos enfants lequel est votre préféré ?» C'est cornélien et c'est impossible.
Ouais.
Mais donc j'ai gardé Georges, parce que c'était un peu triste d'ailleurs de finir sur le Covid. Et donc j'étais encore jeune et je voulais refaire un tour de piste et me remettre à fond dans une seule affaire pour retrouver les sensations premières d'être là tout le temps. Du matin au soir.
Tout votre amour sur le même enfant, quoi. Voilà, il vous reste 7 enfants-là. Gilles, une question, excusez-moi, mais quand Jean-Gabriel dit « on ne peut pas être partout », c'est un peu une mode des bistrots qui marchent que de se multiplier. D'ailleurs, on aura Sébastien Dufour tout à l'heure en ligne.
Oui, par exemple, au Cyril Lignac, on a plusieurs dans Paris. On a la Gardien, là, qui est le Café Lignac, d'ailleurs, il est aussi dans le 11e.
Mais c'est difficile de garder son âme quand on est dans plusieurs lieux.
C'est difficile, il faut avoir quelqu'un sur qui compter, par exemple, les Frères Dumont, qui ont 7 bistrots, notamment 6 dans ce guide, ou 5 dans ce guide, sont des gens exceptionnels dans leur côté. Ils défendent la bonne cuisine parisienne, comme ils le disent. Ils défendent la nostalgie un peu à la Modiano, avec des décors un peu années 40.
Avec Margot, la fille de Jérôme, en cuisine, son fils aussi.
Son fils, Margot, la fille, et puis Félix, le fils, puis Achille. Et moi, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des gens de confiance. Et puis aussi, il y a quelqu'un d'extraordinaire, là, dans l'homme qui était mon lauréat l'an passé au Paris 16. Vous avez Fred Prudhomme, qui a depuis 25-30 ans. C'était une trattoria avant, qui est déjà là en train de faire les spaghettis pour tout le monde, enfin de les servir en tout cas.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est lui qui est là en train de... Il est un peu rondouillard, il est rigolo, c'est l'aubergiste tel qu'on l'imagine dans son rêve.
Un peu balsacien, quoi.
Voilà, il vous dit, quand on boit bien, on mange bien, et quand on mange bien, on boit bien. Donc,
et tout va bien.
Tout va bien, voilà. Quand on est là-bas, on se sent réconforté. Ce sont des gens qui font... Les Anglais appellent ça la comfort food. C'est la cuisine réconfortante. Par les temps qui courent, on en a besoin.
Oh oui, on en a besoin. Alors, Jean-Gabriel Bueil, vous allez ouvrir le bal, parce qu'on parle beaucoup de restauration, mais il faut parler de ce qu'il y a dans les assiettes tout de même. Hein, parce que la cuisine de bistrot, c'est quelque chose à part entière dans la gastronomie française, cette cuisine bourgeoise qui est un peu tournée vers le passé. Hein, bon, même si on dépoussière souvent dans vos restaurants. Donc, je vais demander à chacun de ceux que j'ai en ligne ce matin, un plat emblématique qui représenterait chez Georges rue du Mail.
Alors nous, sans conteste, pour le ramener à l'histoire de l'établissement, c'est le pavé du Mail. Donc Georges, c'est Georges rue du Mail. D'ailleurs, le nom du restaurant, c'est chez Georges le jeu du Mail, qui fait référence un jeu qui a été créé sous Louis XIV au Palais Royal.
Oui.
Avec une boule de buis et un maillet souple, et qui est l'ancêtre de tous les jeux qui se jouent aujourd'hui.
Un genre de croquet, français, oui, d'accord. Et alors le plat, c'est quoi ?
Alors le plat, c'est le pavé du mail. C'est un plat qui a été créé par Georges à l'ouverture du bistrot, ouais, donc après 60 ans.
Ouais.
Alors, c'est un cœur de filet de bœuf.
Oui.
Alors, race à viande maturée, du filet, donc un muscle qui ne travaille pas beaucoup.
Ouais,
mais
ouais.
Donc,
c'est très tendre et moins goûteux que certains autres endroits.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, il n'y a pas de gras, donc moins goûteux, mais très tendre. Donc, lui, il est poêlé, il est déglacé donc au cognac, il est crémé et puis il est lié à la moutarde de Dijon.
Ah, pas mal.
Et donc en
une
fait
sauce
c'est
au poivre, sans poivre quoi, un peu.
Oui, un pavé à la moutarde.
Oui, c'est ça, à la moutarde.
Un cœur de filet à la moutarde, et puis après il y a des petites touches qu'on garde secrètes, mais globalement voilà. Et alors ce pavé du mail, c'est un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le plat signature de la maison.
Bien sûr.
Voilà, avec beaucoup de force, beaucoup de goût. C'est vrai que chez nous on ne fait rien à l'avance, il n'y a pas de quatrième gamme, tout est fait minute. C'est vrai que ça a aussi ce goût de ce pavé du
fait maison, de la cuisine maison.
Voilà, le goût du fait maison. Mais d'ailleurs, Gilles parle de comfort food. C'est vrai qu'en tout cas, les engagements qu'on prend, nous, c'est de le plus joli compliment qu'on puisse nous faire. Là, j'ai une dame qui est venue vendredi et qui me dit, on avait fait un riz au lait avec un caramel au beurre salé. Elle me dit, écoutez, il est très très bon, il est presque aussi bon que celui de ma mère. Et quand on arrive à concurrencer, on n'arrive jamais à égaliser les plats qui sont faits maison, mais ça veut dire qu'on est pas trop mal.
On est dans la bonne ligne. Merci voilà, Jean-Gabriel. Il faut que je vous laisse parce que ça se bouscule derrière au portillon.
Oui,
Ah oui, à la porte de service, il y a déjà toutes les livraisons. Merci.
Donc
je rappelle Georges Rodumal dans le deuxième
voilà,
à Paris.
Merci Vincent. Et puis bonne journée. Et
bon
merci
dimanche
beaucoup.
À vous. Hein, ça donne
merci.
Envie. Allez,
au
mes
revoir.
Amis, on se retrouve dans une minute pour continuer d'égrener le petit Budelot des bistrots. Et il y en a 107, on a le temps.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Ce matin, on apporte une aide active à tous les supporters qui viennent pour le match ce soir. Et jusqu'au 28, on l'espère bien, en leur trouvant des bonnes adresses des bistrots parisiens. Hein, parce que quand on débarque de sa région, et souvent du sud-ouest, il faut bien le dire, hein, c'est le principal de la population rugbystique du moment, on est un petit peu perdu à Paris pour trouver les bons bistrots avec la belle cuisine. Alors on peut
toujours du droitier, ne pas toujours aller chez Christian Etchebest, pardon.
Ben bien sûr, chez Christian Etchebest, bien sûr, au Cantine du Troquet. Mais il n'y a pas que lui. Et puis
c'est le roi du bistrot à la mode Valley.
Non, puis Jules Pudlowski, il faut dire que quand on vient du sud-ouest, c'est bien de se retrouver dans une ambiance Eric Hospital, Camp de Borde, etc. Mais on a aussi envie de manger la cuisine parisienne, des bistrots et des brasseries parisiennes.
Voilà, absolument.
Hein, la vraie cuisine bourgeoise.
Ben, absolument. Maillot, Blanquette.
Le museau vinaigrette. La salade de lentilles.
Voilà, profiterons de chocolat.
Voilà, tout ce qu'on aime.
Des choses légères.
Alors, comme ce soir, il faut bien le dire, malheureusement pour eux, les pubs irlandais sont un petit peu en berne aujourd'hui. Hein, vous imaginez que ça ne va pas être de la grande ambiance hein, si on veut aller boire une Guinness. Donc, il vaut mieux se rabattre sur les bistrots parisiens.
Hein.
Alors, les bistrots parisiens, eh bien, ils sont dans le guide Le Petit Pudelot des bistrots. Et Gilles Pudlowski est avec moi, vous l'avez compris, pour égrainer un petit peu ce palmarès. Alors, il y en a un qu'on n'aura pas en ligne, mais que je voulais citer quand même. C'est le prix de la transmission, c'est les deux Frachebout.
Ah ben, enfin, Patrick et Luc. Le père, c'est Patrick. Fils, c'est Luc. Et ils ont les noces de Jeannette aussi, ils ont la bonne franquette dans le 18e. Ce sont passeurs d'émotions.
C'est un lieu magique, hein, la bonne franquette à Montmartre.
C'est un lieu, c'est la carte postale parisienne, Emily in Paris. Hein, c'est l'auberge montmartroise, telle que nos amis américains l'imaginent.
Oui, c'est ça. C'est, voilà, ils ont gardé exactement le cadre que les Américains voudraient trouver en arrivant. Comme
absolument,
si une sorte
absolument.
De musée.
Comme autrefois dans Moulin Rouge. Comme dans le film Moulin Rouge. Et c'est vrai que c'est bon. En plus, ils trouvent toujours, Luc comme Patrick, sont les dénicheurs de bon vin, donc il y a toujours chez eux des crus qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, Patrick a de l'humour, il dit chez moi, rien n'est maison, mais tout est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire par là qu'il achète la meilleure charcuterie possible, les meilleurs fromages possibles.
Eh bien, c'est génial.
Et la meilleure viande possible.
Et on adore voilà. Ça. On adore ça. Puis alors,
simple, mais bon.
Il faut quand même signaler qu'il y a dans le palmarès le bistrot de l'année. Et alors là, chapeau. C'est un chapeau, d'ailleurs, vous nous y avez emmené pour le découvrir, en face de la fac de Jussieu.
Ce qui était là à Louvain, autrefois.
Oui, ce qui était là à Louvain, effectivement. Et justement, nous avons le bistrotier vainqueur de ce palmarès
Théophile
ce matin.
Théophile Molès.
Théophile Molès. Bonjour, Théophile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est une aide apportée au monde de l'Ovalie qui vient à Paris aujourd'hui de donner les bonnes adresses de bistrot, surtout le bistrot de l'année du Puy-de-l'Eau.
Merci à vous, c'est avec plaisir.
Votre bistrot, le Moulin à Vent, a remporté. Vous y attendiez ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Pas du tout. On était déjà dans le guide l'année dernière, mais on ne s'attendait pas à gagner le...
Alors,
trophée, ouais.
Alors avant de vous écouter, je vais demander à Gilles Pudlowski, qu'est-ce qui fait que dans plus d'une centaine de bistrots parisiens, vous avez identifié celui-ci comme le bistrot de l'année ? C'est quoi le secret ?
On s'est dit qu'en fait, chez lui, il y avait tout il répond à tous les critères. Avoir qu'elle était prise avec un menu à 26 euros qui est sur ardoise, qui est formidable. Cuisine bistrot et intelligente avec Maxime Plateau, un jeune chef qui a travaillé chez Saint-Denis. Qui fait un œuf maillot, par exemple, qui est un peu tout avec une mayonnaise un peu twistée, avec un poivre à l'ancienne, une sauce moutarde à l'ancienne, et puis des petits pickles de rouge, c'est formidable. Le carpaccio de cochon avec sa petite vinaigrette digenaise.
Ah, de tête de cochon.
Voilà.
Carpaccio
en carpaccio, tranché finement. Et puis, bien sûr, aussi, cette fameuse poitrine de veau confite, en sac des morilles, qui est cuit 15 heures, qui est formidable. Et la profiterole au chocolat, parce qu'il y a une profiterole au chocolat qui est craquante. Et puis, il faut dire une chose formidable aussi, c'est que chez eux, bon, il y a le patron, il y a des vins, mais il y a un décor absolument formidable. Mmh. On a l'impression qu'on est dans Biche, chez Biche. Vous rappelez le bistrot Ludo Ventura.
Absolument.
Et Jean Gabin se rencontre dans tout
chez Biche. C'est du Audiard, c'est du Simenon, c'est ce qu'on aime dans les bistrots.
Absolument.
Quoi.
Voilà, c'est du Jean Becker, c'est du. on a l'impression d'être. Dans un film qu'on tourne sur les vitraux, et pourtant il existe. Juste à côté, il y avait Boissonnier, par exemple, qui a disparu. Vous aviez le petit Daniel qui a disparu. Il est le dernier des Mohicans.
Dernier des Mohicans des Fossés Saint-Bernard. Alors, Théophile Molès, moi j'entends Gilles de me parler de, grosso modo, des années 50-60. Hein. C'est-à-dire cette référence. Mais vous avez quel âge ?
Moi, je vais avoir 28 ans, là, à la fin du mois.
Formidable. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai envie de dire, c'est presque le musée d'une France qu'aucun de vos clients, enfin, en tout cas, la majorité, n'ont pas connu. Hein, parce que chez vous, ce n'est pas des vieux barbons comme nous. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent se remettre dans une ambiance bistrotière.
Et c'est vrai que depuis qu'on a repris le Moulin à Vent, on a un petit peu rajeuni la clientèle. Mais on a toujours nos clients historiques qui viennent. Et en fait, on a réussi à faire cohabiter un petit peu tout le monde. Et c'est ça qui est bien sympa.
Oui, vous avez créé cette passerelle.
Un mélange des générations.
Ouais. Une sorte de passerelle entre les générations, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ça qui est intéressant dans le bistrot, c'est que... Les gens se rencontrent, échangent, et sans a priori, sans...
Oui, c'est ça, il y a une facilité, il n'y a pas le côté empoulé des restaurants gastronomiques.
Pas du tout.
On est quand même côte à côte sur des nappes à carreaux ou sur des nappes en papier, parfois. Hein.
C'est du soigné. Hein.
Oui.
C'est nappé blanc.
Belle la blanche.
Mais on n'a pas peur de les tâcher, on est d'accord.
C'est fait pour ça.
Si on renverse le verre ballon, c'est pas grave. Théophile, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui fait chez vous, dans votre histoire, que vous avez eu envie de reprendre un bistrot ? Vous êtes amoureux de la cuisine bourgeoise ? Vous êtes formé à cela ? Quel a été dans votre histoire le déclic ?
Alors moi j'ai toujours aimé cuisiner, passer un moment à table de par mon éducation, par ma mère, ma grand-mère, etc.
Ouais.
Et j'ai découvert le bistrot un peu par hasard, mais d'ailleurs au Gavroche.
Ouais, qui est aussi
lauréat également, tout à fait.
Chez Nicolas de Gatoire.
C'était très symbolique pour moi d'être de recevoir ce trophée avec, avec Nicolas.
Et... faire devenir tradition, Nicolas.
Ouais. Mais c'est bon de citer.
Après, je suis passé au Bizetro aussi dans le 16e.
Ah bah oui, oui.
Qui est également mentionné dans le guide.
Bah bien sûr.
Avec un patron, voilà, un patron fin et délicat.
Ouais. Bah oui. C'est avec ces deux adresses que j'ai appris à aimer le bistrot, le partage. Et ce petit plus un peu indescriptible, ouais, qui se passe quand on passe ces murs, justement, de ces belles adresses.
Entre zinc et ronde serviette, absolument, et le pot de vin sur la table. Alors, Lyon a ses bouchons, Paris a ses bistrots, et c'est un peu le comparatif qu'on peut faire, Gilles.
Strasbourg a ses Wittstube.
Et, ouais, bah bien sûr, ouais, on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de citer.
Et Lille, c'est estaminé.
Allez, merci beaucoup, Théophile Meles, encore bravo pour votre grand prix, hein, que vous avez reçu.
Et allez au bistrot.
Allez au bistrot. Alors attendez. Gilles a cité, hein, la poitrine de veau confite pendant 15 heures, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ben... confite en basse température pendant 15 heures. Puis grillé,
oh là là,
avec sauce au mori et gratin dauphinois.
Bon, c'est gagné. Vous m'avez eu pour le petit déjeuner. On se retrouve dans une minute avec un de vos confrères. Merci beaucoup et bon dimanche à vous.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fernio fait le marché.
Oui, de retour en studio avec Gilles Pudlowski qui m'a apporté ce matin le petit Pudelot des bistrots 2023. 2023, faut se dépêcher, hein, parce que c'est dans 3 mois, c'est terminé. Faudra passer sur le suivant. Gilles Pudlowski, 107 bistrots. Que vous détaillez dans ce qu'ils ont d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un bistrot ? D'abord, on ne l'a pas dit en début d'émission, mais bistrot est un mot qui vient des soldats russes du début du
19e. Voilà, ouais. Ils envahissent Paris, ils réclament vite.
Bistrot,
voilà.
Quand on est au comptoir, on tape sur le zinc et on dit bistrot, bistrot.
On tape sur le zinc, ils voulaient goûter vite. Bon, bistrot.
Ouais.
Il y a deux, il y a d'autres... Il y a une origine du poète vide avec bistrot à UD, mais bon, je pense plutôt au Cossack, à Paris en plus.
Mm-hmm.
Alors le bistrot, vous pouvez l'écrire avec un T ou sans T, nous on l'écrit avec un T. Et puis bistrot, c'est 5 choses, hein. C'est un patron, un rapport qualité-prix, une ambiance, un décor et bien entendu une cuisine.
Bien entendu, une cuisine. Et une cuisine particulière.
Une cuisine nostalgique, une cuisine qui nous fait du bien, une cuisine réconfortante, on l'a dit. Et puis avec un peu, comment dire, mise au goût du jour.
Alors,
j'ai qu'autrefois.
Gilles, on peut dire, parce qu'on l'a dit, le bistrot, d'abord, il est d'essence parisienne. Hein, même s'il s'est répandu en France.
C'est de modèle à toute la France.
Oui, c'est alors. Ça. Oui, mais bon, c'est devenu un nom générique qui veut dire un petit troquet, quoi.
Ouais,
enfin, un petit troquet où on mange.
Parisien, ça pleunasse.
Oui, c'est ça. Bistrot, c'est déjà parisien, comme le bouchon est lyonnais, comme l'estaminet est lillois, comme le Wittstube est strasbourgeoise ou mulhousienne, enfin bon, peu importe. Ou colmarienne, hein, surtout aussi. Enfin, moi, il est vraiment du Bas-Rhin. Alors. Quand on réfléchit à ça, on se dit que c'est lié à une cuisine, on va dire, de comptoir. C'est en fait des cafés-restaurants, le bistrot.
Oui, c'est un endroit où on vient d'abord sur le comptoir boire son apéro, discuter avec le patron, boire un petit coup de blanc. Bah, je pensais le jour au Gavroche et Nicolas de Catoir, il m'a servi un blanc de Beaucastel. Alors, c'était pas le Beaucastel classique, c'était un Côte-du-Rhône de la famille Perrin.
Oui, le Côte-du-Rhône de la famille Perrin, qui est une super affaire,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, super adresse. Mais il vous sert avec, bien entendu, un petit peu de pâté de tête ou fromage de tête, si vous voulez, coupé de chez Bobos, à Saint-Jean-d'Ardière. Il coupe un petit morceau et c'est tout un petit bonheur qui arrive comme ça.
Un petit bonheur, un grand bonheur.
Non, mais c'est le petit Jésus en culotte de velours.
Ah, voilà. C'est ça, les bistrots, voilà. D'ailleurs.
Oui, c'est ça. On est là pour être heureux. On se fait la bise, on se connaît pas. On se connaissait pas il y a 5 minutes. On se tutoie 10 minutes après.
Théophile Meles, qui était avec nous, le patron du Moulin à Vent, qui est le bistrot de l'année, disait qu'il avait fait vraiment une sorte de passerelle entre les générations. Parce qu'on a beaucoup d'images qui évoquent La sortie de la guerre, hein, les 30 Glorieuses, et puis un cinéma, c'est Audiard, c'est Verneuil, c'est Gabin, ouais, Ventura, voilà, les bistrots, hein, et Blié, qui était vraiment dans l'affaire aussi. Mais tout ça, les jeunes aujourd'hui ne s'y réfèrent pas.
Et ils reviennent, je crois, qu'ils reviennent au bistrot. Comment il y a un retour du bistrot. Ben, je crois que si on fait ce guide, si on descend ces trophées, c'est précisément parce que nous sommes dans l'ère du temps. Nous, on dit aujourd'hui, on a besoin de simplicité, on a un petit peu marre des grands endroits où qui coûtent la peau des fesses, où c'est tellement compliqué que parfois il faut demander trois fois de l'éducation pour comprendre ce qu'on mange. Alors, le bistrot, c'est simple, c'est lisible.
La régression, hein, c'est très important dans les bistrots, avoir des madeleines de Proust, hein, entre guillemets, et parfois c'est la transmission qui fait œuvre de prophylaxie en matière de bistroterie. Ce matin, figurez-vous que j'ai un autre de vos restaurateurs avec nous, un autre de vos bistrotiers, c'est Sébastien Dufour qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors vous êtes tombé dedans et tombé... Enfin, vous êtes tombé dedans, non, vous êtes né en fait dans le restaurant avec votre frère et vous avez fait perdurer en fait cet esprit de bistrot, de brasserie.
Oui, exactement.
Hein, racontez-nous ça un petit peu. Hein,
Mon arrière-grand-mère vendait des huîtres au Hall et a décidé d'acheter un resto à l'époque qui s'appelait la Brasserie Lorraine.
Ouais.
Et mon père, avant de m'emmener à l'école tous les matins, m'emmenait dans cette brasserie justement pour le restaurant.
Place des Ternes, hein, avec les fleuristes en face à l'époque, hein, qui était un endroit du 17e arrondissement. Moi, j'habitais rue Gustave Flaubert. Alors croyez-moi que mon père nous y emmenait quelques fois dans votre famille. Et figurez-vous que vous avez en fait, vous avez pris ce qu'il y avait de plus parisien, on va dire, dans votre ADN de restaurateur, et vous avez ouvert à l'enseigne Paul Chêne, plusieurs bistrots sur un modèle qui est quand même très proche.
Ouais, en fait, je voulais récupérer des vieux restaurants qui ont des âmes, et j'ai voulu faire de la brasserie d'antan. Petit bistrot simple, sympa, où tout le monde peut s'y croiser et tout le monde est heureux de partager un moment dedans.
Ouais, alors je ne fais que regretter que le petit Chêne ne soit plus, hein, parce que vous aviez récupéré une très très belle adresse, Rue Gros.
Qui s'appelait Chaumette.
Ouais, Chaumette qui était très traditionnelle, hein, qui n'avait pas bougé depuis les années 30, hein, grosso modo.
Exactement. Ouais.
Et bon, on peut pas être partout, comme le disait tout à l'heure Jean-Gabriel de Bueil. Peut-être vous avez dû faire des choix. Hein.
Exactement, on a dû faire des choix et on a voulu se concentrer dans... Plutôt qu'ouvrir plusieurs affaires, on a voulu se concentrer chacun, mon frère et moi, dans une affaire et pouvoir tenir le restaurant et être dedans tous les jours pour ne pas devenir une brasserie qui a plus d'âme.
Alors, Gilles Pudlowski, cette brasserie... Alors, moi, je vais parler
ce bistrot.
Alors, évidemment, il y a la rue Lauriston qui est très... je dirais le flagship, hein, comme
oui,
on dirait.
Il y avait Gabi Morlaix et Jean Gabin qui venait manger le macro vin blanc dans les années 50. On reste toujours dans la nostalgie. Et aujourd'hui, on y mange et bien frites de Paris.
Ouais, ah ben voilà, ça c'est dit.
Croquante, moelleuse, douce comme un rêve.
Oh ben dites donc, et vous l'avez gagné là, le puits de l'eau, hein. Il est mordu. Mais moi je voudrais faire une référence rive gauche, à la rue
rive
du
gauche,
Cherche-Midi.
Avec leur compagnon Charlie Laborde, Adrien, Sébastien, les deux frères, ont racheté un truc qui appartenait à notre ami Christian Etchebest, et ils ont fait un bistrot à leur manière. Donc il y a tous les gens de partout, des jeunes, que je suis allé quasiment à l'ouverture et ils étaient déjà remplis de monde.
Même là, le jour de l'ouverture.
J'ai pas encore posé mon rond de serviette, mais ça me titille, c'est vrai. Parlons de la cuisine, parce que l'ambiance, on l'a compris, elle est, ce que je dis souvent, hein, c'est-à-dire nostalgique mais dépoussiérée, hein, quand même, parce que c'est une clientèle assez jeune, hein, qui vient chez vous, comme vous. Parlons de la cuisine. Est-ce qu'elle est entièrement tournée vers la tradition, vers la cuisine bourgeoise, ou est-ce que vous permettez quelques libertés?
Non, on travaille vraiment. Enfin, alors oui et non. Enfin, on travaille vraiment sur les produits classiques de bistrot, les œufs mayo, les terrines, les rideaux, les rognons. Et c'est vrai que
les plats canailles, comme on disait.
Les plats canailles, exactement. Et on fait un plat qui est très réussi, qui sont les coquillettes crème, jambon blanc, jambon de pays, huile de truffe, fourreau parmesan.
Oui.
Et ça, ça, c'est des plats qui sont sympas, qui sont accessibles et qui plaisent à tout le monde, parce que ça nous rappelle les plats qu'on se fait à la maison, mais bien fait, exactement, on était en France.
Ouais, c'est des petits pièges, en fait. Ça, c'est des petits pièges à émotion, ça.
Hein, exactement.
Hein, c'est le truc du dimanche soir quand il reste une tranche de jambon dans le frigo. Alors vous l'améliorez un petit peu, il est vrai.
Évidemment.
Mais c'est vrai que la coquille de jambon, c'est un truc que tout le monde
fromage,
a au cœur.
Jambon, fromage.
Oui. Même en Alsace et Lorraine, hein, ils arrivent même à se faire ça avec du Munster, il paraît parfois. Un petit peu de Munster frais. Alors, ce plat, vous diriez que c'est votre plat signature, c'est le plat emblématique des bistrots Polchen?
C'est pas notre plat emblématique, mais c'est le plat qui a pour moi le plus d'importance, parce que quand j'ai ouvert ce resto, juste avant de l'acheter, j'ai eu un problème de couple, et j'ai vécu chez un ami. Et quand j'ai racheté ce resto, je l'ai appelé, et il a appelé Polchen Sean Paul comme le rappeur, et c'est devenu ce plat. Enfin, c'est devenu un plat qui lui est dédié, pas à Sean Paul, mais à mon ami. Et on est très heureux de l'avoir à la carte et de le garder, parce que Il m'a aidé au moment où il fallait, donc c'est plutôt sympa.
On sent que chez votre ami, il n'y avait pas de four, il y avait juste des plaques, et donc il n'y avait que des coquillettes à se faire, hein, c'est grosso modo.
C'est un peu ça à l'époque, exactement.
Un petit peu ça. En tout cas, autour de vos coquillettes, donc on l'a compris, tous ces plats, et notamment des plats d'abat, parce que ça reste dans les bistrots qu'on trouve du rognon de riz.
L'œuf maillot aussi, l'œuf maillot.
Ah bah, l'œuf maillot.
On a fait la compétition il y a 2 ans maintenant, on était finaliste de la compétition de l'œuf.
Je me souviens.
Très sympa. Et ouais, et après l'hiver arrive, donc là c'est pour moi c'est une grande joie, parce qu'on va enfin pouvoir faire de la chasse. Et c'est pour moi les plats en sauce d'hiver sont les plus intéressants et plus.
Et vous êtes ouvert aujourd'hui?
Non, le seul jour de fermeture, c'est le dimanche.
Ah bah voilà, dommage. Dommage pour les supporters qui viennent ce soir pour ce quart de finale historique. Ils boufferont du boc parce qu'ils auront faim comme ça. Ils n'auront pas passé par les bistrots parisiens. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous.
À très bientôt. Allez, on se retrouve dans une minute et on continue. Mais là, on fera un petit voyage du côté du Médoc, tiens. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'assiette, on n'a pas parlé beaucoup des verres.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Toujours avec Gilles Pudlowski qui va nous quitter, mes amis. Gilles, merci d'être venu, vous m'avez donné sacrément faim.
Avec regret.
Oui, mais comme je le disais, on s'est occupé beaucoup de l'assiette, pas beaucoup des verres. Hein, vous êtes d'accord si on fait un petit tour dans le Médoc?
Bien sûr. Et comme disait Blaise Cendrars, quand tu aimes, il faut partir.
Quand tu aimes, c'est très beau. Mais moi, je vais rester un petit moment. Hier, j'étais pour la fête des vendanges du château du Cru Beaucailloux à Saint-Julien en Médoc. Avec Bruno Bory, et figurez-vous que c'était une belle fête. On va parler un petit peu quand même de cette vendange 2023, hein, parce qu'elle s'annonçait mal, mais je crois qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors Bruno Bory, on est dans le parc du château du Cru Beaucailloux, qui s'est transformé un peu en fête paysanne, fête des vendanges.
Oui, c'est exactement ça, et c'est tout à fait le ton que nous voulions donner à cette journée, un peu faire revivre ces moments d'enfance. Les vendanges, c'était le moment, c'était les marronniers, quoi. Tout le monde attendait les vendanges avec beaucoup d'impatience, et voilà, on a recréé ça.
Oui, vous avez recréé. Alors, avant de parler de la fête qui se tient aujourd'hui ici, parlons de ces vendanges. Comment se sont passées les vendanges? Comment s'est passé cet été? Comment sont les raisins, quoi, en clair?
En fait, c'est la bonne surprise. Alors vous allez me dire, je vous dis toujours que c'est la bonne surprise. Ben oui, ben finalement, la nature est bonne fille. Et là, on a eu un été, surtout un mois de juin qui était un peu moyen, un mois de juillet qui n'était pas formidable, etc., etc. Et puis tout d'un coup, en septembre, on a eu des hautes pressions, un anticyclone assez formidable qui a fini de mûrir, des cabernets exceptionnels et des merlots aussi. Donc je pense qu'on va faire un très bon vin, et sans doute supérieur à ce qu'on attendait de faire.
Parce qu'on attend toujours le pire et on espère le meilleur.
On est des paysans, donc on est toujours
circonspect, quoi.
Voilà, toujours. Mais voilà, c'est la bonne surprise que nous a réservée la nature.
Parce que tout le monde a évidemment vécu et vit année après année un réchauffement climatique global, un dérèglement climatique plutôt. L'été ici en Médoc, alors il faut savoir que le Médoc est une pointe coincée entre la Gironde et, et l'océan. Donc une climatologie très dépendante de l'eau, hein, de l'eau qui entoure en fait ce vignoble.
Bah, c'est bien notre avantage, c'est-à-dire que par rapport effectivement peut-être à d'autres régions qui ont un peu plus souffert, et même dans le Bordelais, hein, mais l'avantage du Médoc et surtout les vignobles qui sont situés juste au bord de l'estuaire, ils ont le privilège de ces 650 km² d'estuaire, le plus grand estuaire d'Europe. Donc ces grosses quantités d'eau qui sont mises en mouvement 4 fois par jour, finalement nous protège un peu des excès du climat.
Ça brasse l'air et on le sait bien pour avoir vécu parfois ou être passé par les îles, on sait bien que évidemment la quantité d'eau agit comme un réfrigérateur en quelque sorte.
Exactement, et c'est même assez formidable aussi cette proximité, là cet été c'était flagrant, cette proximité avec l'estuaire, vous descendez dans les prairies où on a tout à l'heure montré les beaux bovins d'Aquitaine, mais vous voyez ces prairies de palus, eh bien on a un climat qui est frais et qui finalement le matin nous permet de remonter un peu de fraîcheur sur les vignobles et d'adoucir les rigueurs des anticyclones.
Oui, parce que faut pas oublier que le raisin c'est un fruit, que les fruits bénéficient en général de nuits fraîches. Si la journée est chaude, il faut qu'il y ait une différence de température, un différentiel important.
Oui, c'est ça. Il faut des nuits fraîches pour avoir des raisins de qualité. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu.
Bon, ça c'est absolument extraordinaire. Alors, tant mieux. On attend avec impatience donc cette nouvelle récolte. Bon, ici, c'est la fête. C'est-à-dire que vous avez souhaité renouer avec une tradition ancienne de cette fête des fins de vendange, parce que il faut dire que dans les grandes propriétés, ici, ça en fait partie, vous êtes un grand cru classé, donc on a perdu un petit peu l'âme paysanne. On s'est tourné plus vers une viticulture de luxe. Et vous avez envie de renouer avec ces racines.
Mais je me sens bien, je suis bien avec mes amis médocains, et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas, par exemple Nicolas Forerou, dont on va parler tout à l'heure, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer Domingo Reyes, tous ces éleveurs, ou même un peu plus loin, Jim, que vous avez rencontré tout à l'heure, qui est ce formidable entrepreneur qui a 600 hectares de pommes de terre en Médoc, on n'aurait jamais cru ça, mais oui, si, et qui fait la chips de millésime, formidable, délicieuse. Double cuisson. Moi, je me sens cette communauté avec le monde agricole, le monde paysan. Je me sens paysan et je me sens vraiment un fils de la terre. Et je veux que la ville vienne nous voir, vienne s'approprier nos valeurs, vienne nous rencontrer et sans doute se convaincre que finalement l'agriculture c'est le plus beau métier du monde, le plus dur mais le plus beau.
Alors dans l'agriculture, il y a évidemment la culture des végétaux, mais aussi l'élevage. Et l'élevage animal est important, c'est important pour vous. Vous êtes amoureux, il faut le dire, aussi des taureaux et de la tauromachie, mais aussi du bel élevage bovin et pas seulement. Et c'est pour ça que vous avez souhaité créer une sorte de, non pas un concours, mais une démonstration, on va dire, des races à viande qui sont présentes sur votre aire.
Eh bien oui, parce que voilà, c'est ça. C'est toute cette... Et moi, dans mon enfance, en fait, toutes ces propriétés viticoles étaient en fait des grandes propriétés agricoles à vocation viticole.
Mais donc polyculture.
On avait tous des élevages, on avait tous des volailles, des cochons, etc., etc. Donc moi, j'ai été élevé toute mon enfance avec des. On avait de la limousine, qui était peut-être moins parfaite qu'elle ne l'est aujourd'hui, monsieur Lesport. Mais bon, on avait déjà des limousines. Je m'en rappelle d'ailleurs, avant les vendanges, c'était formidable parce qu'il s'agissait d'en capturer une ou deux. Mais alors, c'était un bazar formidable parce qu'elles étaient très sauvages. En fait, elles étaient élevées en plein pré et on n'arrivait pas à les attraper. Alors, on faisait appel à monsieur Cruz dans le Nord-Médoc et qui venait nous les rentrer dans le camion. Voilà. Mais toujours, j'ai eu des limousines ici et justement, on a perdu ça et je veux qu'on renaisse ça.
Alors, il est vrai que lorsqu'on vous entend parler des limousines, on pense plutôt dans les grands châteaux du Médoc à des limousines quatre portes noires garées devant les chais pour venir charger quelques caisses. Non, il s'agit bien de la race limousine, cette belle race à viande. Et pas seulement, parce que je suis avec Pierre Lespard, qui était aujourd'hui le grand ordonnateur, justement, de cette démonstration bovine. Faut dire que vous êtes dans la vache toute l'année, vous. C'est votre ADN, hein, de Landais.
Oui, alors effectivement, alors je suis originaire des Landes. Monsieur Bourri m'avait sollicité. Alors, pour dire les choses, j'avais été curieux de la démarche. Et j'avoue que j'ai rencontré un homme très, très à l'écoute des problématiques de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier ici. Il y a toute sa place, il l'a précisé. Et c'est avec enthousiasme, effectivement, qu'on a adhéré au projet pour organiser une présentation des principales races présentes en Nouvelle-Aquitaine.
Oui, les trois grandes races, on va dire.
Alors, les trois grandes races, on en avait prévu une quatrième, on en parlera. On a eu quelques soucis sanitaires. Mais en tout cas, on avait des limousines, des charolaises et de la blonde aquitaine aujourd'hui, avec des éleveurs à la fois locaux, mais aussi des éleveurs engagés professionnellement nulle part dans leur race, et puis avec des gens qui ont l'habitude de faire des concours, que ce soit Aquitanima, que je représente aujourd'hui ici, ou que ce soit le Salon d'agriculture à Paris, plus lointain. On avait donc quand même un échantillon de la crème des éleveurs.
Mais c'est quand même assez étonnant quand on voit toute l'image qui est portée par les grands châteaux du Médoc, par ce côté un peu exclusif, inaccessible parfois, de se retrouver avec des vaches et des taureaux sur la pelouse devant le château.
Alors, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a des palus ici autour, donc les vaches, quelque part, elles servent à entretenir les tours de château, mais c'est vrai que la démarche de M. Bourri, elle n'est pas ordinaire, moi, il faut le dire, et les éleveurs, quand je l'ai appelé, spontanément, ils m'ont tous dit oui, mais ils ont eu quelques questionnements sur l'engagement du propriétaire ici du château et de sa volonté de faire venir les éleveurs. Et j'avoue que c'est quand même une démarche à saluer, je l'ai salué d'ailleurs aujourd'hui, je le dirai plus tard ailleurs, mais sincèrement, c'était une belle démarche.
Alors, il faut dire aussi, Bruno Bory, que cet amour du taureau, qu'il soit du taureau d'élevage ou du taureau bravo, comme on dit, le taureau de combat, et elle est couplée à une fidélité que vous avez à l'égard d'une tribu espagnole qui vient chaque année d'Andalousie pour faire les vendanges ici. Donc, c'est eux que vous fêtez aussi aujourd'hui.
Exactement, on a cette envie de fêter l'Andalousie et ça fait plus de 50 ans que le même village de Val de Peñas de Jaén nous honore pour venir faire les vendanges et maintenant un peu plus, c'est-à-dire qu'ils viennent nous aider pour les travaux d'été, pour les effeuillages, pour les vendanges en verre, etc. Et puis ils nous aident aussi maintenant pour la taille. Donc, et on a eu l'occasion de faire un voyage et qui a été formidable pour toute l'équipe dirigeante. Hein, on était tous les cadres, on était une dizaine et on est descendu à Jaén. Et d'abord, on a fait une petite escale au Castello de Canena à Jaén. Et c'est une huile d'olive à tomber par terre. C'est le pays de l'huile d'olive. Et puis après, on est descendu à la Finca de la Vincens, qui est extraordinaire, une finca avec des taureaux, des chevaux. Et voilà, on est bien en Andalousie et on est frères de sang.
Pierre Lespard, juste un mot pour dire, la Bazadez qui était absente aujourd'hui pour cause de difficultés de transport, à cause d'un sale moustique qui donne une maladie aux vaches, mais ça ne durera pas. Voilà, il faut rassurer tous ceux qui aiment l'élevage bovin. Évidemment, c'est ouvert au public ici, encore aujourd'hui. Donc, rendez-vous l'année prochaine.
Rendez-vous l'année prochaine, bien sûr, et surtout, on sera avec Pierre Lespard, très enthousiaste, et on sera ravis de vous accueillir.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Voilà, vous l'avez compris, c'était la fête des vendanges hier du côté du Médoc, enfin partout en France, hein, parce que les vendanges sont largement terminées. Et ce soir, ça sera la fête du rugby, évidemment, sur Sud Radio. À suivre d'ailleurs sur Sud Radio, une journée spéciale autour du quart de finale France-Afrique du Sud. Coup d'envoi à 21h, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, il y en a encore. Mais nous vous ferons vivre le compte à rebours avec toutes nos équipes à partir de 16h sur l'antenne. Sud Radio sera aussi en direct de la rue Guizard à Paris, depuis la fameuse fan zone Sud Radio, mais aussi à Marseille, à Toulouse, dans toutes les places fortes du rugby, qu'on se le dise. Et j'ai avec moi ce matin qui vient d'arriver en studio, Alexandre Devecchio, en toute vérité. Bonjour Alexandre, évidemment dans l'attente de ce moment aussi. Alexandre, quel est le sujet en toute vérité ce matin?
Oui, ce sujet moins réjouissant que le que la Coupe du Monde de rugby, hélas, on reviendra sur le terrible attentat d'Arras, sur la situation en Israël et en Palestine et ses répercussions en France. On recevra notamment Jean-Pierre Robin, auteur d'un livre qui est sorti cette semaine avec un titre prémonitoire, Les profs ont peur. Il est ancien inspecteur général de l'éducation nationale, et Bernard Rougier qui est islamologue et qui avait écrit Les territoires conquis de l'islamisme.
Merci beaucoup Alexandre. Merci. On vous retrouve dans un instant après les infos de 11h et je vous souhaite un bon dimanche dans l'attente du match ce soir.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.